Bienvenue sur Bien en Périgord, rendez-vous aujourd'hui avec les jeunes agriculteurs.
Un débat public organisé par les jeunes agriculteurs à l'occasion de leur Assemblée Générale a réuni une grande diversité de témoignages pour toucher à la fois les sujets de l'alimentation dans les établissements scolaires, de la distribution dans les boutiques de producteurs, des élus, de l'Union des maires, députés, conseillers départementaux ont pris la parole et surtout des agriculteurs présents dans la salle. Agriculture et alimentation, c'est d'abord un état des lieux en Dordogne.
Chacun a son rôle à jouer, à son niveau. Et je crois qu'on a besoin de tous ces modèles-là, demain, pour que l'agriculture soit diversifiée, qu'elle soit rémunératrice et qu'on continue à installer des jeunes sur nos territoires. En 30 ans, on a perdu 30% de nos boucheries, 19% de vaches laitières, 30% de brebis. On a perdu 15% de maïs et en maraîchage, on est stable. Si je reprends les mêmes chiffres en Dordogne sur 30 ans, on a perdu 57% de veaux de boucherie, 51% de vaches laitières, on a perdu 35% de brebis, on a perdu 42% de maïs, le maïs qui est tant critiqué, je veux dire, en 30 ans, il a presque été divisé par deux. Et par contre, on a augmenté pratiquement de 30% en maraîchage en Dordogne.
Il n'y a pas à y avoir un petit déséquilibre au bout d'un moment entre... À force de réduire et de tout réduire et d'augmenter uniquement le maraîchage, par exemple, puisque c'est ce que disent les chiffres en 30 ans sur la Dordogne, le déséquilibre, l'équilibre que... complexe, je crois qu'il est là.
Et le nombre de végétariens, il a augmenté.
Le problème, c'est qu'à derrière, on a des outils industriels. Et ce sont des emplois. Je veux dire, il faut faire attention à un moment donné. Si on réduit trop, l'intérêt de l'industriel doit préserver l'outil. Alors là, après, c'est des réactions en chaîne, mais d'autres départements ont connu ça, on a déjà connu ça dans le département. J'ai dit, si on ne fait rien, on continuera à le connaître.
L'éducation au goût et au bon produit commence dès le plus jeune âge.
L'idée, c'est pas d'opposer les systèmes. L'idée, c'est de dire, d'un côté, on a le contexte de la loi Egalim, je disais deuxième facette tout à l'heure, qui annonce donc pour 1er janvier 2022 donc 50% de produits sous signe officiel de qualité, dont 20% de produits bio. En Dordogne, effectivement, donc on disait, on a bon nombre de filières sous signe officiel de qualité, ceci étant, mais il n'y en a pas beaucoup qu'on peut valoriser dans le cadre de la restauration collective. On a un peu de bovin, on a un peu d'aviculture, mais je veux dire, après la châtaigne, on n'en passe pas beaucoup en restauration collective, la noix, on en passe encore moins, ou très 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 peu. La fraise, on peut en passer un petit peu, mais le bassin de production sur l'IGP fraise du Périgord, il est relativement epsilon. Donc la stratégie à un moment, ça a été de dire, ben, on veut utiliser un peu cette stratégie de laboratoire et dire, est-ce que si on veut passer à 100%, est-ce qu'on est capable de faire ? La réponse a été oui. On a su faire avec le collège de Belvès à hauteur de 350 repas jour, à peu près. On s'est dit, ben, si on arrive à le faire comme ça, on avait déjà l'expérimentation avec le chef de cuisine, comme quoi c'était possible sur une école à une centaine de convives, 120 ou 140 à l'époque où il était sur Marsannay. On s'est dit, ben, on va transposer le modèle pour savoir si c'est possible toujours d'arriver à le faire de manière économiquement viable aussi, parce qu'on est obligé de parler comme ça au niveau de nos coûts d'enrées sur un établissement donc à 1000 convives, donc à Montpont. Et là, on a fait la dernière phase intermédiaire avec la cité scolaire de Nontron. Maintenant, je disais, stratégiquement, l'évolution, c'est de dire, ben, on sait qu'on y arrive, c'est bien. De la partie expérimentation, la partie un peu labo, on arrive à une partie vitrine. C'est super. Effectivement, en termes de communication, c'est bien. Maintenant, c'est le fait de dire, ben, essayons d'y intégrer tout ce qu'on peut pour considérer effectivement qu'on parle de 100% fait maison, de 100% local, et que du coup, ben, la part du bio, elle soit toujours aussi haute malgré tout, parce qu'on ne pourra pas l'enlever. Sociétalement parlant, on va vers ça quoi qu'il arrive. Voilà. Après... Effectivement, le but, c'est absolument pas d'opposer les modèles. Et encore une fois, nous, on parle que des cantines scolaires collèges.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous pour manger local, ok, mais notre rémunération, elle est toujours un peu oubliée et par rapport à l'Egalim, eh bien, on n'a aucun retour par rapport à tout ça.
Derrière nos choix de consommation se trouve le revenu des producteurs.
Une grosse inconnue qu'on n'a jamais pu prouver, parce qu'on n'a jamais pu avoir les documents. C'est le partage de la valeur ajoutée et c'est tout le jeu de la loi Egalim. Parce que là, il y a quand même à gratter. Et je disais, c'est peut-être la première fois qu'un gouvernement ose mettre des prunes au GMS. Et je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour qu'on fasse vraiment ce qu'a dit la loi Egalim, qu'on bâtisse le prix en partant du produit et de l'agriculteur. Car ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'inquiétude que j'ai aussi, et j'alerte souvent, mais on en parle souvent avec le département, les élus, il ne faut pas que tous nos éleveurs se mettent à la vente directe. Il ne faut pas que tous nos producteurs de légumes se mettent à la vente directe. J'ai dit, on va se faire de la concurrence. Donc voilà, j'ai dit, l'équilibre de l'offre et de la demande, il est très fragile, il est très précaire. Alors c'est vrai qu'on manque un peu de... je dirais de données sur l'évolution du marché. Je veux dire, aujourd'hui, ce qu'on avait calculé, je dirais, dans les années 2018-2019, on s'aperçoit que le confinement et le Covid, ben, ça a dépassé toutes nos espérances. Mais dès que le déconfinement a été arrêté, sur août, septembre et octobre, je veux dire, on s'est aperçu que 80% des consommateurs reprenaient leur habitude. Je vous rappelle quand même qu'encore 80% des denrées alimentaires sont vendues par la grande surface. Et alors un chiffre, moi, qui m'étonne, c'est que 60% du bio est vendu par la grande surface aujourd'hui, quoi. Alors qu'avant, ça représentait que 10 ou 15%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la grande distribution est en train de mettre son rouleau compresseur sur les prix, sur le bio, comme elle a fait sur le conventionnel. Et c'est tout le problème aujourd'hui de nos collègues qui sont en bio. Je vais dire, ils ont des coûts de production voilà, et qui sont beaucoup plus importants que nous, et ils voient leur prix qui tous les ans se grignote un petit peu. Et ils disent stop, on ne peut plus.
C'est aussi un enjeu pour le maintien du territoire qui, demain, si on a tous des exploitations, je vais schématiser volontairement, sur des exploitations de 4 hectares, ben demain matin ou demain, que va devenir le territoire? Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que ce n'est pas le contribuable, le conseil départemental ou la chambre d'agriculture qui va entretenir tout ce territoire. Enfin, je schématise volontairement, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est un enjeu qui est quand même assez... Pas de rémunération, moins d'agriculteurs, enfin, c'est quand même assez complexe.
Considérer le travail des agriculteurs, c'est aussi ne plus gaspiller ce qu'on a dans son assiette.
Outre le fait d'être conseillère départementale, j'ai aussi le double avantage d'être enseignante et dans un collège. Pour être membre du conseil d'administration, on a fait un suivi, vous savez, des parts non consommées et de ce qui est jeté dans les collèges. Et cette part-là est en baisse depuis 4 ans de manière significative chaque année. Ce qui veut dire qu'il est très probable qu'on calcule mieux les parts, ça c'est une possibilité, c'est la première possibilité. Mais la deuxième, c'est aussi que ce qui est dans l'assiette est proposé aux jeunes est davantage consommé et plus apprécié aussi. Et le retour qui en est fait, pour avoir moi 220 élèves par jour, donc j'ai un petit, voilà, et depuis le début de ma carrière 5000, donc je commence à pouvoir faire des statistiques là maintenant, à ce stade-là, c'est vrai que la satisfaction est plus grande. On pourrait aussi entraîner nos élèves à voir que ce qu'ils consomment, ce qu'ils apprécient, ça vient de tout à côté, et que la personne qui le produit l'a rencontré, etc. Et ça, pour l'instant, on ne le fait pas beaucoup. Moi, je le regrette un peu. Je trouve que ça serait intéressant dans la démarche. Parce que ceux-là, là, ceux qui ont 13 ou 14 ans, dans quelques années, c'est ces consommateurs-là qui vont dans les grandes surfaces ou pas. Et c'est ceux-là qui vont se nourrir, qui vont permettre aussi aux agriculteurs de gagner leur vie dans le futur. Et que peut-être à un moment donné, on a la situation de maintenant, et il faut voir aussi celle de dans quelques années et la préparer. Je pense aussi qu'il serait intéressant que l'on donne aux parents d'élèves qui sont des usagers, je dirais par déviation par leurs enfants, leur donner le véritable coût de ce que c'est un produit agricole. Parce que ça, je ne crois pas qu'il l'est. Et je ne suis pas sûre qu'ils aient les véritables, je dirais, coûts d'une cantine scolaire avec l'ensemble des produits bio et ou locaux qui leur sont proposés.
Nous, au niveau de la chambre d'agriculture, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que le produit aujourd'hui, les interprofessions, on les connaît, les produits de qualité de notre Périgord. Par contre, le métier et l'agriculteur et l'agricultrice qui est tous les jours sur le terrain, on ne le connaît pas. Et donc, on a signé une convention au niveau de la chambre d'agriculture avec l'éducation nationale, justement, où on va accueillir des élèves et, sur des exploitations pour faire découvrir le métier, ce que c'est au quotidien. Voilà. Donc ils pourront faire la relation entre le métier d'agriculteur, la production et ce qu'ils ont dans l'assiette.
L'objectif, c'est bien que, j'insiste beaucoup parce qu'il fait partie de mon service, mais donc l'animateur formateur est au sein de nos équipes, Mais le lien, forcément, dans le cadre de la réussite de ce type de projet-là, c'est forcément le fait d'emmener avec nous, j'allais dire, tout le corps enseignant. Mais au-delà, je veux dire, il faut que tout le monde s'y mette. Les parents d'élèves sont associés, bien sûr. Le corps enseignant doit l'être et doit s'accaparer cette démarche-là. On travaille aussi avec toute la partie des infirmières scolaires et ainsi de suite, parce que du coup, si il nous manque un maillon, j'allais dire, de ces éléments-là, ça peut pas fonctionner correctement, en tout cas, ou pas en tout cas dans nos attentes.
Des contraintes réglementaires ont parfois empêché le choix de produits de proximité.
Pendant de trop nombreuses années, moi je trouve personnellement que les structures scolaires de l'éducation nationale ou autres, publics ou privés, les lycées, les collèges se sont beaucoup trop réunis pour passer des appels d'offres auprès de marques nationales ou européennes ou internationales pour avoir des prix au plus bas prix. Donc c'est pour ça qu'on a créé au niveau du département, mais en accord bien entendu avec les filières et les collectivités agricoles, les collèges bio.
Le retour au choix de proximité va bousculer les modes de distribution.
La grande distribution, elle est en train d'évoluer. Vous avez des gens aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme Serge Papin qui est l'ancien président de Système U, il se trouve que c'est quelqu'un que je connais particulièrement, qui vous dit que dans 10 à 15 ans, vous aurez plus de la moitié des hypermarchés qui auront fermé et qu'on aura beaucoup plus de magasins de proximité. Donc je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit. Quand vous regardez aujourd'hui la progression, ceux qui ont gagné des parts de marché, c'est notamment Système U avec leur concept de faire travailler des éleveurs, des producteurs locaux. Sur ces projets alimentaires de territoire, sur l'agriculture, qui est un élément extrêmement fort dans notre département, il faut qu'on travaille ensemble. Mais le défaut qu'on a les élus, je vais vous le dire, c'est que nous, on monte des choses, mais on vous consulte pas. Et la base, excusez-moi, je l'ai dit ici quand on a fait la charte de bon voisinage, il y a quelqu'un qui est intervenu sur l'abattoir, mais c'est de demander aux éleveurs qu'est-ce qu'il y a besoin comme outil sur le département. Et pour ces projets alimentaires de territoire, il faut qu'on vous consulte absolument. C'est avec vous qu'il faut qu'on le fasse. Et vous avez employé le mot qui me convient bien, c'est ensemble. Voilà, je crois qu'on a du mal à travailler les uns avec les autres. Et je crois que c'est quoi le métier d'agriculteur dans 15 ans en Dordogne? Parce qu'effectivement, le monsieur qui disait tout à l'heure, nous on fait de l'élevage traditionnel, effectivement, et on ne gagne rien. Moi, mon premier adjoint dans ma commune, il est producteur de lait. Et est-ce que, voilà, quand il va passer le flambeau, il a des enfants, mais est-ce que c'est les enfants qui reprennent ou pas? Parce que si ce n'est pas rémunérateur, moi j'ai des tas d'hectares de vignes qui se sont arrachés. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les gens sont devenus feignants, qu'ils ne veulent pas tailler quand il gèle, etc. C'est qu'à la fin de l'année, quand on a travaillé et qu'on ne boucle pas, ben effectivement, ça ne donne pas envie.
Magasins de producteurs de tout le pays, unissez-vous.
Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen au niveau des chambres d'agriculture, puisque finalement c'est un organisme qui est national, enfin qui a ses homologues un peu partout, d'organiser des magasins de producteurs au niveau national, de faire une sorte de programme expérimental pour pouvoir avoir des débouchés pour les producteurs français qui soient détenus par les producteurs. Puisque je pense que si l'avenir va vers des petites et moyennes surfaces, donc monter des petits magasins, c'est tout à fait faisable, ça correspond à l'avenir de la distribution. Mais je crois que la clé surtout, c'est de détenir son outil comme on détient l'outil de production. À terme, il faudra détenir l'outil de commercialisation. Si on ne détient pas son outil de commercialisation, on n'en décidera pas la politique, on n'en aura pas la valeur ajoutée. Et dans tous les cas, on se fera remplacer un jour ou l'autre par un produit moins cher.
Alors, je réponds tout de suite. Tu en rêvais, on l'a fait. Ça existe. Ça existe. Le seul bémol, c'est que c'est en train de se mettre en place. Et c'est basé sur les deux réseaux, marché de producteurs et bienvenue à la ferme. Le problème, c'est qu'au niveau de la Dordogne, on traîne un peu les pieds. Et j'assume, je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'en gros, ils acceptent 70 ou 80% de produits qui ne sont pas issus des réseaux de producteurs. Donc, si eux, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Soit on y va à fond, et ça veut dire que tous les agriculteurs jouent le jeu, on rentre dans le réseau et on se met en réseau, c'est le cas de le dire, et on vend que nos produits, ou sinon on commence à revendre des produits de revendeurs, et là ça me gêne un peu.
Le traditionnel bon sens près de chez nous, c'est peut-être terminé.
Aujourd'hui, à l'école de mon village, qui c'est qui s'occupe à l'école primaire d'organiser les menus, tout ça? En principe, c'est des agents, mais au niveau de la politique de la nutrition, c'est quand même le maire et les élus qui ont la main là-dessus. Au niveau des communes, pourquoi on continue pas comme ça? Mon père, il est maire du village, il fait tout pour que ça marche en local. Aujourd'hui, on veut créer des usines à gaz en communauté de communes. Il est vice-président de communauté de communes, mon père. quand il va, il assiste à une réunion, il met deux jours à s'en remettre. Quoi. Il est agriculteur, ça fait 40 ans qu'il fait ça, c'est des usines à gaz. Donc aujourd'hui, l'argent public qu'on met sur la table pour nous, en fait, il va passer dans le fonctionnement de cette usine à gaz, parce qu'il va falloir payer des gens pour tout coordonner. Quoi. Il va falloir appeler les producteurs, appeler les écoles, savoir les besoins. C'est une usine à gaz. Aujourd'hui, ça marche très bien. Mon père, il appelle le cantonnier, il dit, voilà, tu vas acheter des fraises chez Cyril, machin, et tout. Et ça se passe très bien comme ça. Et est-ce qu'il faut mieux pas faire du cas par cas à chaque maire, leur dire, voilà, si vous faites pas trop bien ça, vaut mieux faire ça, et tout ça, plutôt que de faire quelque chose d'un peu important dans les communautés de communes, qui va pas forcément nous rapporter plus à nous, parce que ça va passer, le budget, il va passer dans du fonctionnement.
Ce qui a été repris dans l'ensemble, c'est qu'il ne faut pas opposer les systèmes et qu'ils sont tous complémentaires. Donc chez JIA, c'est ce qu'on prône, donc on est à peu près sur la bonne longueur d'onde, normalement.
Et quand la députée du Sarladais évoque la loi Egalim, certains s'emportent.
Nous avons fait la loi agriculture et alimentation, donc c'était vraiment une loi qui était faite pour vous. Malheureusement, c'est vrai, au bout de 2 ans, maintenant 3 ans, on voit qu'elle ne fonctionne pas.
Comment ça fait qu'un plombier, quand lui, il facture ses honoraires, il inclut tous ses coûts de production? Nous, on fait vivre un tas de personnes et nous, on crève. Nous, en bas, on crève. Quoi. Comment ça se fait, quoi?
Ce que je comprends quand même, c'est que ce sont les transformateurs qui ne veulent pas acheter le prix du lait. Et pourquoi ils sont en position de force? Parce qu'ils savent que vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter leur prix. Ils l'imposent. Voilà. Donc il faut trouver d'autres moyens pour d'autres leviers. Ceux qui ont été prévus ne fonctionnent pas. Il faudrait en trouver d'autres. Je suis attentive et je ne dis pas que j'y arriverai, mais pour moi, il ne faut pas que les décisions que nous prenions à l'Assemblée nationale aillent dans des règlements qui soient plus sévères en France qu'ils le sont dans nos pays voisins. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, une des grandes questions qu'on doit se poser, c'est la question de l'eau, de l'utilisation de l'eau, du partage de l'eau, de l'irrigation, et peut-être du choix, peut-être des semences que vous pourrez faire qui sont moins gourmandes en eau, afin que vous puissiez aussi avoir de meilleures récoltes malgré les difficultés climatiques.
Le soin de conclure les débats revient au préfet, comme toujours, qui résume la situation.
Ce débat n'amenait pas des solutions simples et immédiates, et que effectivement, ce n'est pas de la richesse de nos échanges que l'on va faire augmenter l'indice du prix et le résultat de vos négociations avec les transformateurs, avec les coopératives et les distributeurs. On a pu évoquer pêle-mêle l'évolution de la part de l'agriculture française dans le commerce mondial. On a pu évoquer l'évolution des normes et le fait que dans les établissements scolaires, il n'y avait plus de cuisinier avec un couteau, mais qu'on était aussi uniquement dans le réchauffement de plats surgelés fabriqués dans des grandes structures. Tout ceci et la conjonction de facteurs nombreux. Et je crois qu'un des facteurs les plus importants, c'est l'évolution de notre société. Et l'évolution de notre société, elle est vers un plus grand individualisme, elle est vers le refus du risque, elle est vers une résolution des situations, non pas dans la négociation, non pas dans la discussion, mais dans le contentieux. Et peu à peu, quand on ajoute tout ceci, on se retrouve un petit peu dans cette nasse où on a d'une part une surréglementation, de l'autre côté un individualisme forcené, et au bout du compte, eh bien, les acteurs qui n'y trouvent plus leur intérêt. Donc sur chacune des problématiques qui sont rencontrées, localement, sur certaines filières, sur les problématiques de commercialisation, de débouchés, sur les problématiques environnementales. On a parlé de la charte de bon voisinage, on a parlé de l'eau également. Je crois que nous avons beaucoup de sujets à travailler collectivement. Ça viendra bien sûr par des évolutions réglementaires, ça viendra aussi par la capacité à convaincre les autres parties prenantes sur l'ensemble de ces paramètres que sont effectivement les coûts de production, que sont effectivement le coût du foncier, que sont effectivement les contraintes environnementales, le changement climatique, et qui nécessitent de travailler collectivement.